Bon, eh ben, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ceux qui arrivent, j'en fais partie, à cette université d'été. Donc on va commencer cet atelier sur la question de l'insertion, et donc on a appelé « Histoire d'une dérive ». Donc vous comprendrez très vite la raison. Et on a avec nous Philippe Labbé, qui est donc sociologue et chercheur associé à l'Université de Rennes 2, à qui je passerai la parole dans quelques instants. On a souhaité travailler sur cette question de l'insertion parce que c'est un enjeu, une problématique majeure. Alors la question de l'insertion, elle a commencé à se poser assez récemment, finalement, à partir du moment où on rentre dans une société de chômage structurel de masse, quoi, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80. Et la question qui se pose avec l'insertion, c'est bien l'idée. Alors on demande déjà, c'est une forme d'exigence, d'insertion, c'est bien l'idée de le passage entre la formation et le monde professionnel. Donc la question de l'insertion, c'est bien d'entrer dans le monde professionnel. Donc c'est le lien qu'il y a finalement entre la formation et l'entrée dans le monde professionnel. Alors aujourd'hui, on est dans une situation, on le sait, vous le savez tous, je ne vais pas asséner 36 000 chiffres, mais qu'on a un chômage, ce qu'on appelle le chômage des jeunes, qui est assez considérable, et en France en particulier. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça peut monter. Moins on a de diplômes, moins on a de formation, plus plus le chômage est important dans ces populations-là. Donc c'est vraiment une question qui aujourd'hui, on l'a sur toutes les lèvres, on l'entend partout, l'insertion, c'est devenu un peu une obsession, et qui est aussi réutilisée à des fins un peu moins glorieuses. Alors on sait qu'on est aujourd'hui, que les jeunes sont dans une situation de précarisation assez importante. On développe tout un tas de dispositifs, les emplois d'avenir, les emplois jeunes, on a pour favoriser l'insertion, comme on dit, pour permettre aux jeunes de se former, voilà. Et on sait aussi que c'est un outil pour faire, on va dire, pression sur le salariat. Donc cette question de l'insertion, elle est vraiment au cœur à la fois de la conception qu'on a du monde du travail, de son fonctionnement, et la conception qu'on a du système éducatif et du système de formation qu'on veut, puisqu'elle touche, par exemple, la question de l'orientation, c'est-à-dire quelle école on veut, pour quel monde du travail. Et donc cette question de l'insertion, elle a débuté donc dans les années 80, et au fur et à mesure des choses, on en a confié un peu, et Philippe Labbé dans quelques instants va y revenir, on en a confié le travail aux missions locales. Et on sait aujourd'hui que le rôle des missions locales est à la fois très important et à la fois très compliqué, très difficile. Et donc c'est un peu aussi à travers les missions locales je dirais, l'image de cette dérive de l'insertion qui est en train de devenir peu à peu, on est en train de tomber dans un système d'employabilité. Il faut qu'un jeune soit employable dans une société d'hyper spécialisation du travail, où les formations même, où l'orientation conduit à une hyper spécialisation. Et on se retrouve vraiment, on a combien d'exemples autour de nous de jeunes, une fois qu'on est rentré dans une branche, si jamais on se retrouve sans rien, pour changer, c'est quand même très très compliqué. Donc on met en place comme ça tout un tas de dispositifs, et on en perd aussi le sens global de ce passage entre le monde de l'apprentissage, le monde de la formation et le monde du travail. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions qui nous intéressaient, d'autant plus que le mouvement jeune communiste et d'autres aussi, on est en ce moment sur des grandes batailles sur la question du travail et du travail des jeunes et de la formation des jeunes. Et donc c'était intéressant pour nous de faire venir un spécialiste sur ces questions-là pour débroussailler aussi, enlever un certain nombre de conceptions parfois erronées qu'on a des choses et se réapproprier, parce qu'on le sait, les missions locales, on le disait, c'est une porte d'entrée sur cette question de l'insertion, mais on en sait en fait pas beaucoup, et parfois on fait mal. Et donc l'idée, c'est vraiment de débroussailler cette question centrale dans la conception qu'on a aujourd'hui, et pour nous donner aussi des outils pour mener la lutte contre la précarisation croissante des jeunes. Et voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, parce qu'on a à peu près une petite heure et demie devant nous. Donc très rapidement, je vais passer la parole à Philippe Labbé, qui va pouvoir développer tout ça.
Merci. Bonjour à chacune et à chacun. Donc voilà, je m'appelle Philippe Labbé. J'ai 61 ans, bientôt 62. J'habite au sud de Rennes, à côté de la forêt de Brocéliande. Il y a très longtemps, j'ai été éducateur spécialisé pendant 10 ans. À la suite de quoi, j'ai fait des travaux d'ethnologie, puis de sociologie. Je travaille aujourd'hui dans une SCOP depuis plusieurs années. Et je suis également enseignant à Rennes 2, en charge des masters 1 et 2 sur les politiques publiques de l'emploi, sur un module également sur l'insertion et sur les politiques jeunesse. Voilà, et c'est rigolo de dire on n'en sait pas très long sur les missions. Un indicateur, est-ce que vous savez, alors j'ai écrit 6 ou 7 ouvrages, je ne sais plus très bien, sur les missions locales. Un indicateur, est-ce que vous savez quel est le tirage moyen d'un ouvrage au PU ?
Presse universitaire de France.
Une idée comme ça.
800.
Oui. Bravo. 800. Alors là, c'est la première fois que quelqu'un me trouve. Bon,
Non, mais il est pistonné. Il avait la réponse avant, t'inquiète pas.
Ça veut dire que, effectivement, moi, les deux premiers ouvrages que j'ai écrits, ça s'appelle Les bricoleurs de l'indicible. 350 pages chacun, je connais leur tirage et pour cause. Et donc, effectivement, il y a un problème de culture, d'appropriation de ces choses-là. Les gens ne lisent pas. Bon, c'est ainsi. Juste pour la collection que je dirige s'appelle Les penseurs sociaux, avec un A, au sens du pansement. Quoi. Juste trois réflexions sur ce que tu viens de dire, si tu permets. Quoi. L'insertion, c'est pas uniquement l'insertion professionnelle. C'est l'insertion professionnelle et sociale. Je reviendrai là-dessus. Deuxième idée, la lutte, elle se passe également sur les mots, sur le vocabulaire. J'y reviendrai également. Et je trouve qu'on a tendance à parler de précarité, mais il faut également être capable de parler de paupérisation de la jeunesse. C'est plus grave. J'ai le sentiment que aujourd'hui, la question de la jeunesse est une des questions sociales au sens du 19e siècle. La question sociale au 19e siècle, c'était le prolétariat. Et que la jeunesse devient une question sociale, une vraie question sociale, au sens encore une fois historique. Et troisième réflexion, là c'est pour les données. Il faut avoir en tête que 50% des jeunes non qualifiés sont au chômage 3 ans après leur arrivée sur le marché du travail. 50%. Comme ça, pour rebondir un peu sur ce que tu disais. Le thème, le titre plus exactement, c'est « Histoire d'une dérive ». En fait, on devrait parler de dire « dérive » au pluriel, quoi. Il y a plusieurs dérives et j'essaierai de vous en donner, de vous en proposer quelques-unes. Mais il me semble qu'on est arrivé à un moment vis-à-vis de la jeunesse qui est un moment de situation au sens de Guy Debord qui dit une situation c'est le moment où le spectateur devient acteur et que la situation de la jeunesse aujourd'hui implique des actions et des actions radicales au sens étymologique, c'est-à-dire aller à la racine. Quatre points dans ce que je vais échanger avec vous. J'essaierai de resituer un petit peu le contexte des années 80, où est née l'insertion. Je parlerai un petit peu ensuite de l'arrivée et du développement des missions locales, pour pointer quelques dérives, des dérives macro-sociétales et des dérives propres aux missions locales. Et enfin, je vous proposerai les actions qui me semblent prioritaires. D'abord, on prend tous les chercheurs s'accordent pour dire que 81, c'est la date de naissance de l'insertion. Avant, on ne parlait pas d'insertion. Ça n'existait pas. Je crois que le terme d'insertion apparaît une fois dans une circulaire du ministère en direction des équipes de prévention spécialisées dans les années 77. On a une politique de l'emploi qui se met en place à partir des premiers chocs pétroliers, qu'on appelait les plans barres. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique, je dirais presque un invariant des politiques de droite, que les plans barres, puisque les plans barres ont touché près de 2 millions de jeunes, et on se dit, tiens, voilà des actions qui ont été menées par les jeunes, mais en fait, les plans barres, c'était uniquement des exonérations de charges pour les employeurs. Et ça, c'est un invariant des politiques de droite, depuis globalement, depuis 40 ans. Les politiques de droite jouent pour l'emploi des jeunes sur l'exonération des charges. Ce qui pose un gros problème, puisque ça revient à mettre dans la tête des gens qu'un jeune vaut moins qu'un adulte. Ça, et aujourd'hui, nombre de collègues qui travaillent pour l'insertion des jeunes négocient avec des employeurs, et la première question de l'employeur pour embaucher un jeune, c'est « qu'est-ce que je vais gagner ?» Vous imaginez quand on raisonne comme ça. Donc un jeune vaudrait moins qu'un adulte. En 81, on est dans une situation de bouleversement très fort, et moi je notais 10 phénomènes. D'abord, on a l'esprit, on a une utopie en tête. Le slogan, l'arrivée Mitterrand au pouvoir, c'est changer la vie. Vous remarquerez, on retrouve le thème du changement qu'on a entendu au dernier. Et j'ai l'impression que plus on parle du changement, moins on en fait. Bien. C'est le problème des slogans qui, par définition, sont imbéciles. Les slogans. Alors, changer la vie, mais on y croit. Hein. On a l'impression que Mitterrand, c'est en quelque sorte Merlin Enchanteur, tiens, pour reprendre la forêt de Brocéliande, qui va arriver là et qui, avec sa baguette magique, va résoudre immédiatement tous les problèmes. À tel point que le chômage des jeunes, on a le sentiment qu'en l'espace de 18 mois, 2 ans maximum, il va être résolu. Donc on a cette utopie-là dans la tête. Deuxième idée, on est dans une nostalgie des 30 Glorieuses, de l'État social. Faut pas oublier qu'en 81, les 30 Glorieuses sont achevées depuis à peine une demi-douzaine d'années. Et qu'on a le sentiment qu'avec l'arrivée de Mitterrand et de l'Union de la gauche, on va retrouver le confort des 30 Glorieuses. Donc on y croit. Troisième idée, on a deux bouleversements importants qui sont pas rien parce que tous, autant qu'on est, on se socialise, quelle que soit la qualité de nos esprits respectifs, dans le temps et dans l'espace. Et on a un bouleversement du rapport à l'espace assez extraordinaire et paradoxal. L'espace se dilate, on rentre dans le monde-village. McLuhan va écrire un livre, il va parler de la galaxie. Marconi, aujourd'hui on dirait Google, Marconi à l'époque c'était Pâté Marconi, et il dit qu'on passe de la galaxie Gutenberg, de l'écrit, à la galaxie des signaux électroniques, c'est le monde village, on apprend quasiment immédiatement qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde, donc on a le monde qui se dilate, mais une expression commune, qu'on lit d'ailleurs dans les journaux, c'est « y a-t-il un pilote dans l'avion ?» On a l'impression que la machine est en train de s'emballer, et que plus personne ne maîtrise où c'est que ça va aller, et ça va provoquer une rétractation de l'espace. 1980, c'est le début des théories du développement local. C'est également, je vous le rappelle, l'acte 1 de la décentralisation avec les lois de fer. Donc vous voyez à la fois un espace qui se dilate et un espace qui se contracte. Le rapport au temps est encore, je dirais, plus signifiant. Avant les années 80, pour analyser le temps, autant avoir une approche un peu chronologique, le temps passé, le temps présent, le temps futur. Avant 80, le temps passé était considéré comme une expérience. C'est-à-dire quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience professionnelle, c'était un actif, c'était quelqu'un de fiable. À partir des années 80, quelqu'un qui a 30 ans d'expérience professionnelle, on va considérer que c'est l'obsolescence, c'est-à-dire qu'il est out. On passe dans le bilan comptable de l'actif au passif. C'est pas rien. Regardez quelles sont les deux populations les plus affectées par le chômage. Ce sont les deux pôles générationnels opposés. Les jeunes, pour raison d'inexpérience, et les vieux, pour raison d'obsolescence. Le temps présent, il n'y a pas besoin d'être sociologue, hein. Il suffit d'aller à la civette, au café des sports, et puis d'écouter ce que les gens disent. Les gens vous disent, on ne voit plus le temps passer. Accélération du temps. Avant, on prenait le temps, c'est ce que vous disent les gens. Aujourd'hui, le temps s'accélère. Un auteur, c'est une formule que j'aime bien, parle du culte de la nanoseconde, hein, le milliardième de seconde. Et juste une incise, j'étais il y a un an, j'animais un séminaire et mon appareil pour projeter tombe en panne, hein, un petit lecteur de CD. Je fais une pause, à la satisfaction générale de mon public. Je prends ma voiture, je vais à l'hypermarché tout proche et je rentre dans l'hypermarché. Et là, je rentre dans un hypermarché, non. L'espace culturel. C'est pas un lieu de marchandises, c'est un espace culturel. Bien. J'arrive, je vois un lecteur de CD, avec des oreillettes, un transformateur, 20 euros. Ce qui relativise d'ailleurs tout le discours sur la réindustrialisation de la France. Hein, parce que, évidemment, République chinoise, République démocratique de Chine, 20 euros, je ne sais pas si aujourd'hui il y a une entreprise en France qui est capable de le faire. Bon, bref, le problème n'est pas là. À l'autre bout du rayon, qu'est-ce que je vois? Je vois deux petits vieux qui sont en retraite, manifestement, et depuis très longtemps. Ces petits vieux qui jouissent de leur retraite, quoi, depuis au moins une dizaine d'années. Et à côté d'eux, un jeune, type force de vente, vous voyez ce que ça peut être. Et ils sont devant deux ordinateurs. Il y a un ordinateur gris, un peu calviniste, quoi, un peu austère. Quoi. Et puis, il y a un autre ordinateur coloré, rouge. Et je voyais les yeux des petits vieux qui regardaient plutôt le coloré, parce qu'il était plus joli. Quoi. Il fallait s'approcher. Ça, c'est le réflexe ethnologique. Donc, s'approchant, faisant semblant de s'intéresser pour écouter. Effectivement, le vendeur leur disait des mots très techniques, leur parlait d'octets, de mégabits, de trucs comme ça. Les petits vieux, manifestement, ça leur passait le tour. Ils regardaient les ordinateurs comme une poule, une fourchette, quoi. Et dans le discours, il leur dit « Vous gagnez 4 nanosecondes par opération. » Mais c'est plus cher, évidemment, pour gagner 4 nanosecondes. Mais il fallait rester jusqu'au bout, quitte à ce que mes stagiaires s'ennuyaient un peu. Eh bien oui, ils sont partis. Ils sont partis avec l'ordinateur calviniste, qui leur plaisait moins, mais qui leur faisait gagner 4 milliards de yens de seconde par opération. Vous imaginez, ils étaient à la retraite. C'est la folie, quoi. Donc on est dans une accélération du temps. Et d'ailleurs, si on remonte sur le père de la sociologie, Durkheim disait que pour réussir une acculturation, c'est-à-dire le passage d'un système A à un système B, par exemple, passer de jeune à adulte, il y a une condition nécessaire, non suffisante, mais en tout cas nécessaire, qui est d'avoir du temps. Et si on n'a pas de temps, on secrète ce qu'il appelait de l'anomie, c'est-à-dire de la maladie sociale. Prenez un aborigène d'Australie, mettez-le devant Internet, vous avez plus de chances d'en faire un alcoolique que d'en faire un internaute. Voilà. Donc, le temps présent, accéléré, anomie. Et le temps futur, la seule certitude qu'on ait aujourd'hui sur le temps futur, c'est l'incertitude. Alors qu'auparavant, le temps futur, c'était globalement, si on avait réussi bien ce qu'on avait fait, on reproduisait. Et puis, on avait la garantie que, globalement, ça marcherait. L'État, on l'appelait le maître des horloges. Il y avait des planifications. Il y avait un commissariat général au plan, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un futur que l'on pouvait imaginer. Donc, c'est pas rien, dans la socialisation, que le rapport à l'espace et que le rapport au temps soient bouleversés. Ça produit des choses extrêmement difficiles. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a quand même le déclin des grands référentiels, des grandes idéologies. Et le champ libre a la montée d'un individualisme. Alors, il y a un bon côté à l'individualisme. Il y a le côté liberté de la personne, moins de contraintes, de pression sociale de la communauté. Mais il y a aussi un inconvénient terrible, une autre une autre petite histoire qui m'est arrivée. Je faisais une enquête sur les quartiers nord d'Amiens, c'était avant les émeutes. Et quartiers qui sont vraiment en déshérence. J'avais embauché deux jeunes femmes pour aller enquêter, et deux jeunes femmes maghrébines, et qui m'ont dit, dans cette rue-ci, on n'y va pas. Bon, je vais y aller, hein. Bon, elles ne voulaient pas, elles avaient peur. Moi, un peu bravache, j'avais été éducateur de rue, hein, c'était mon truc, donc bon, ça ne me fait pas peur, je vais y aller, et je suis tombé sur une bande de jeunes, effectivement, qui pouvaient faire peur, mais en fait, non, ils étaient très, très gentils, sauf que, en discutant avec eux, en l'espace de 2 minutes, je me suis dit, mais je ne comprends strictement rien à ce qu'ils disent. Je ne comprenais pas. Ils parlaient français, mais ils parlaient un français que je ne comprenais pas. Donc ces jeunes-là étaient dans une situation de non-altérité. L'altérité, c'est la reconnaissance de l'autre en tant que sujet différent de soi et de plein droit. Et je crois que l'individualisme a conduit un certain nombre de jeunes, en particulier dans les zones urbaines sensibles, n'accédant pas au travail, à se socialiser entre eux, dans la bande, de façon endogène. La bande, elle présente des intérêts. Avec la bande, on a le confort, mais la bande a un inconvénient majeur, c'est que l'autre est comme soi. Et on n'apprend pas la différence dans la bande. C'est d'ailleurs pour ça que les phénomènes d'exclusion, de racisme, etc., se trouvent dans les phénomènes de bande. Il n'y a pas d'altérité. Ce qui est important, on grandit sans reconnaître l'autre. Et d'ailleurs, si vous voulez une manifestation de la non-altérité, vous l'aurez demain. Allez vous promener demain sur le trottoir, dans la rue, chez vous, vous allez entendre la non-altérité arriver. Qu'est-ce que c'est la non-altérité arrivée ? Ben, c'est une voiture qui arrive fenêtre ouverte avec la musique à fond la caisse. C'est moi, je vous impose ma musique, les métastases de l'ego, comme dirait Edgar Morin. Je suis le centre du monde, tout gravite autour de moi. La non-altérité, c'est l'impossibilité de reconnaître l'autre comme étant sujet de droit vis-à-vis duquel il y a une nécessité de reconnaissance. Et donc ce phénomène de l'individualisme exacerbé me semble être quelque chose qui a commencé à sortir vraiment dans les années 80. Évidemment, autre phénomène, c'est la transformation, la tertiarisation de la société, le passage d'une économie de distribution à une économie de marché, et du capitalisme industriel au capitalisme financier. Mais à l'époque, on ne saisit pas tout ça. On commence à parler de globalisation et de mondialisation. Mais on commence simplement à parler. Mais les germes, en tout cas, sont là. Un phénomène également important et tout à fait factuel, c'est le doublement du chômage tous les 2 ou 3 ans. Simplement, c'est les seuls chiffres que je vous donnerai. En 73, il y avait 400 000 chômeurs en France. On était dans ce qu'on appelle un chômage résiduel, c'est-à-dire vraiment ceux qui ne peuvent pas travailler, et frictionnel. Frictionnel, c'est le chômage qui résulte du temps d'ajustement entre l'offre et la demande. 400 000, rien. En 75, 840 000. En 2 ans, on double. Vous voyez les effets du choc pétrolier. En 81, 1 657 000. On redouble encore, donc c'est énorme. Et puis, en 84, 2 247 000, et on arrive, en 94, au chiffre actuel, qu'on est en train de dépasser. Alors, quand on dit plus de 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions de chômeurs catégorie A, bien évidemment, mais on est à plus de 5 millions, aujourd'hui, de chômeurs sur les 3 catégories. Donc, une montée absolument fantastique du chômage, une montée également, une progression de la délinquance, très très forte. Quand on regarde les chiffres de la délinquance, dans les années 70, on a une délinquance je dirais presque marginale. Et à partir des années 80, la délinquance va monter avec deux phénomènes. D'une part, la place des mineurs dans la délinquance commence à prendre une proportion importantes, et d'autre part, apparaissent dans les statistiques criminelles une catégorie totalement inconnue, les jeunes filles mineures, qui apparaissent dans les statistiques criminelles. Avec, et ça, ça s'est affirmé depuis, avec, par exemple, un délit caractéristique des délits des jeunes hommes que les jeunes femmes, aujourd'hui, occupent à 40%. Ce sont les CBV, les coups et blessures volontaires. Aujourd'hui, 40% des CBV des mineurs, ce sont des jeunes filles. Ça peut sembler complètement ahurissant pour ceux qui ont l'idée que ben, les coups et blessures volontaires, c'était les garçons qui allaient se bagarrer dans la rue. Ben non, c'est plus exactement ça. Et la montée de la délinquance va arriver dans les années 80. Et enfin, je dirais, on a le phénomène de ce qu'on n'appelait pas à l'époque les US, les zones urbaines sensibles. Ce sont les quartiers HLM, issus de la reconstruction, qui sont devenus des quartiers d'excentricité spatiale et d'excentricité sociale. C'est le début des rodéos, hein, qui n'ont rien à voir avec John Wayne. Et donc le problème des banlieues se pose à partir des années 80. Tout ça, ça va justifier, avec l'arrivée de Mitterrand, ça va justifier la naissance de ce qu'on a appelé les politiques publiques transversales. Politiques publiques transversales. Trois grandes politiques publiques, commanditées par Pierre Mauroy. Première politique publique, la question des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les jeunes? On va confier à un bonhomme qui s'appelle Bertrand Schwartz le soin de rédiger un rapport. Faites-nous quelque chose. Et pourquoi public transversal? Parce que l'idée, c'est de mettre en place de l'interministérialité. Donc, on va nommer des délégués interministériels à la jeunesse. Idem pour la délinquance, où on va nommer Gilbert Bonnemaison, qui était le maire d'Épinay-sur-Seine, là où s'était tenu le congrès du Parti Socialiste, et qui va faire un rapport pour les problèmes de délinquance. Ça va donner... ça va créer Conseil national de prévention de la délinquance, les conseils communaux, etc. Des logiques, encore une fois, interinstitutionnelles et interministérielles. Et dernière politique publique, la politique de la ville, avec Hubert Dubedoux, qui est le maire de Grenoble, et on va lui dire, ben, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça va créer ensuite les dispositifs que certains d'entre vous connaissent certainement, qu'on a appelé le développement social des quartiers, puis la politique de la ville, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le contexte, un contexte de bouleversement très très fort, avec un phénomène qu'il faut avoir en tête si on raisonne en termes de complexité, il y a des effets émergents. La différence entre complication et complexité, c'est que dans la complexité, il y a de l'aléatoire, il y a des choses qui arrivent. Le tout est différent de la somme des parties. Et tout ça, ça va s'amplifier et ça crée une situation extrêmement difficile. Arrive ce rapport de Bertrand Schwartz en 1981, donc sur commande de Pierre Mauroy. On va créer des missions locales et les idées du rapport, c'est, d'une part, de territorialiser l'action. On est au début de la décentralisation, loi de fer, et l'idée de Schwartz, c'est de partir au plus près des réalités de terrain, et donc de créer des missions locales. Donc le terme de local renvoie à cette logique de territoire. Deuxième idée, c'est de s'appuyer sur l'interinstitutionnalité et ce qu'on appelle le partenariat. Et donc de mobiliser l'ensemble des hommes de bonne volonté du secteur institutionnel, du secteur politique, du secteur associatif et du secteur de l'entreprise. Mais l'idée clé fondamentale du rapport de Bertrand Schwartz, qui est un rapport de très grande qualité, c'est de ne pas dissocier le professionnel du social. La lettre de commande de Pierre Mauroy est une lettre de commande explicitement centrée sur l'insertion professionnelle des jeunes, et uniquement l'insertion professionnelle des jeunes. Le coup de force de Bertrand Schwartz, ça a été de dire immédiatement, dès les premières pages de son rapport, on ne peut pas raisonner de cette façon-là, il n'y a pas d'insertion professionnelle s'il n'y a pas d'insertion sociale. Il faut savoir que Bertrand Schwartz est un bonhomme assez étonnant, il vit toujours, hein, Bertrand Schwartz, hein. Il doit avoir 93 ou 94 ans. Il est issu donc d'une famille à Nancy, Son papa était juif, sa maman, c'est la famille Debré. Hein, oui, la famille Debré. Alors le papa est socialiste, la maman, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est gaulliste, et il a un frère, d'ailleurs si vous tapez sur Google Schwarz, vous tomberez plus sur son frère Laurent Schwarz, qui lui est trotskiste, et qui est sans doute, je dirais avec Pierre Bourdieu, le plus grand pétitionnaire du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a signé à peu près toutes les pétitions, et c'est celui qui a inspiré en particulier le mouvement Sauvons la Recherche. Donc il naît dans ce milieu-là, c'est quelqu'un de très modeste, il vous dit « j'étais pas très bon à l'école ». Il est rentré à Polytechnique, il en est sorti dans ce qu'on appelle la botte, et le jour, c'est comme ça que j'explique un petit peu le début de son parcours, ce qu'on appelle une bifurcation, c'est-à-dire le moment où tout a basculé pour ce bonhomme-là. Le jour de la promulgation des résultats, il est convoqué par le directeur de Polytechnique qui dit « Monsieur Schwarz, félicitations, mais en tout état de cause, n'espérez pas avoir un poste parce que vous êtes un élève bis, c'est-à-dire juif ». À ce moment-là, Bertrand Schwarz, qui n'avait pas les deux pieds dans le même sabot, décide de partir et va traverser la France, va se faire arrêter en Espagne où il fera de la prison, s'échappera de la prison, rejoindra le maréchal Leclerc, la 2e DB, et reviendra faire le débarquement de Normandie. Bon. Et c'est un type qui ensuite va consacrer toute sa vie, à la défense de la jeunesse au regard des injustices qui sont faites à la jeunesse. Vous voyez le point de départ, ce qu'on appelle une bifurcation. Donc c'est quelqu'un qui a un humanisme très fort, qui n'est encarté dans aucun parti, même s'il a travaillé beaucoup pour Jacques Delors en particulier, dans la préparation de la loi sur la formation professionnelle. Et son rapport va fonder l'émission locale sur ce principe d'approche globale, non dissociation du professionnel et du social. Alors, le rapport a été diversement accepté, hein, ça n'a pas été simple. D'abord, il a été violemment contesté par la NPE, parce que la lettre de commande de Pierre Monroy commence en ces termes, en disant « les services de placement, aujourd'hui, ne font pas bien leur travail, et les services de l'éducation, entendez éducation nationale, non plus. À l'époque, il y a 220 000 jeunes qui sortent chaque année du système de formation initiale sans diplôme ni qualification. » Donc c'est sur un constat d'échec ou d'inefficacité des services de l'emploi et des services de l'éducation nationale que les missions locales vont être créées. Ce qui fait qu'autour du berceau mission locale, on ne va pas avoir que des fées tout à fait sympathiques, on va avoir des fées carabosses qui ne vont pas du tout être contentes de la naissance de ce nouvel acteur de l'insertion. Mais on a également des critiques qui vont être apportées par des chercheurs, des sociologues, en particulier sur le thème de la dictature du projet, c'est-à-dire vous obligez les jeunes à avoir un projet. Je ne me suis jamais rallié à cette idée-là, parce qu'il me semble que la vraie dictature, c'est la dictature de ne pas avoir de projet. Parce que quand on n'est pas capable de se projeter, on est emmené tel un fétu de paille sur un torrent. C'est le projet qui permet justement de maîtriser le présent et l'avenir. Donc le diktat du projet m'a semblé une critique qui n'était pas pertinente. Une autre critique qu'on a entendue, c'était de remplacer la logique de métier par une logique de compétence. Logique de métier entendait le travail social traditionnel, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, par des compétences. Alors des compétences, c'était quoi? C'était des gens comme vous et moi, mais qui avaient des expériences associatives, syndicalistes, militantes, politiques ou dans l'entreprise. Et à qui on disait, est-ce que vous êtes capable d'aider des jeunes à vous insérer? Il me semble que c'est pas négligeable. Et il me semble que ça fait même partie du travail de l'éducation populaire que de permettre à des syndicalistes, à des militants, à des acteurs de la société civile de pouvoir participer à ce type de projet. Et puis, il y avait la critique de la collusion avec le monde des entreprises. Pourquoi? Parce que l'idée de Schwarz, c'est de relier en quelque sorte le monde économique et le monde du social. Alors pareil, moi je considère que les entreprises, il ne faut pas faire de confusion. C'est-à-dire, il y a d'une part les entreprises, avec des gens qui travaillent, et les entreprises, vous avez tous les jours des gens qui rentrent dedans et qui en sortent le soir. Autrement dit, ils ne sont pas les enfants de Cronos dévorés, quoi, hein. On en sort, même si des fois c'est difficile, il ne faut pas confondre les entreprises avec la représentation des entreprises, entre autres, à Jouy-en-Josas. On est mieux ici hein, qu'à Jouy-en-Josas et qu'à La Rochelle, d'ailleurs. Hein. Et avec le discours des institutionnels des entreprises. Et que, globalement, quand on regarde le tissu des entreprises, ce sont les TPE et les très petites moyennes entreprises qui sont l'essentiel de la production. Je pense que ces gens-là ne sont pas plus... en tout cas, il faut travailler avec eux. Et l'idée de choix, eh bien, de mobiliser acteurs économiques, acteurs institutionnels, acteurs civils et politiques. Alors ensuite, les missions locales vont se développer de façon forte et vont s'institutionnaliser. Aujourd'hui, c'est quand même le premier réseau national pour l'accueil des jeunes. C'est 1 300 000 jeunes chaque année accompagnés. C'est 12 000 professionnels, c'est 450 missions locales avec autant de conseils d'administration, puisque la plupart sont associatives, hein, il y a simplement 20 qui sont groupements d'intérêt public, et donc 450 maires, puisque par définition c'est le maire qui est président de l'association. Ce réseau-là, cet institutionnel, c'est une branche professionnelle et avec des représentants syndicaux, du paritarisme, etc., etc. C'est donc fort, quantitativement, en termes de volumétrie. C'est aussi la faiblesse du réseau, c'est-à-dire c'est un réseau extrêmement labile et qui a du mal à se mobiliser pour des raisons, pour une raison que je vais vous expliquer dans ce deuxième point, ce troisième point, qui est le problème des dérives. Sur les dérives, on a d'abord cinq phénomènes qui sont sociologiques, économiques, sociétaux. On a la grande différence entre 81 et aujourd'hui, c'est qu'en 81, quand on crée l'émission locale et qu'on parle d'insertion, on s'intéresse aux 220 000 jeunes qui sortent chaque année du système de formation initiale sans diplôme ni qualification. Aujourd'hui, l'insertion est un phénomène générationnel. C'est toute une génération qui est concernée par l'insertion, à tel point que l'insertion devient quasiment synonyme de socialisation secondaire. Nous, on donne à l'université des Master 2, avec le tampon, etc. Et la première question des jeunes avec un Master 2, c'est comment je vais m'insérer. Donc c'est un phénomène générationnel, hormis si vous êtes le fils de redoublant en droit et susceptible de prendre la direction de l'EHPAD, tous les jeunes sont concernés par l'insertion. Deuxième idée, avant, on était, en 80, on était sur la logique d'une insertion qui visait l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire les deux pieds de l'intégration, l'autonomie sociale, l'indépendance économique. Aujourd'hui, on est une insertion sur une insertion qui vise une autre insertion. C'est-à-dire, l'insertion est un processus, par définition un processus a un début, c'est une fin, vise à un état. Un état, c'est stabilisé. Et aujourd'hui, le processus vise un autre processus, dont on ne voit pas la fin. Ça, c'est le problème de la précarité, mais qui s'accompagne de la paupérisation. Troisième idée, me semble-t-il, et on en discutera là-dessus, parce que je sais que c'est une de tes préoccupations, de vos préoccupations, c'est le déclin de la valeur travail. Pour analyser la valeur travail, d'abord, il y a un adage, me semble-t-il, c'est un adage amoureux. Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Autrement dit, quand on travaille, on souhaite moins travailler, et quand on ne travaille pas, on aimerait plus travailler. Enfin, globalement, ceux qui travaillent transpirent au travail, et ceux qui ne travaillent pas aspirent au travail, pour aller vite. Bon. Mais en dehors de ça, le rapport à la valeur travail s'organise à partir de trois dimensions. Une dimension qu'on appelle instrumentale, c'est-à-dire on travaille pour gagner sa vie. une deuxième dimension qu'on appelle sociale. On travaille pour être reconnu, pour être intégré dans la communauté humaine. Et une troisième dimension qu'on appelle symbolique. C'est-à-dire on travaille pour s'accomplir. Mais comment voulez-vous que quand on vous propose des CDD de 3 mois, de 2 mois, on ait un autre investissement qu'instrumental? Si on vous propose 3 mois, vous êtes là, vous allez ramasser l'argent, la thune. Vous n'allez pas vous fatiguer à vous insérer socialement dans une communauté humaine que de toute façon vous allez quitter. Donc la dimension sociale disparaît, et tout à fait légitimement. Et la dimension symbolique, on observe aujourd'hui, c'est plus qu'un glissement, c'est une dérive majeure entre la logique de métier vers la logique d'emploi et vers la logique de job, sinon de bad job. Autrement dit, la valeur travail est en train de se déconstruire extrêmement rapidement et probablement on ne prend pas la mesure de ce phénomène-là. Parce que ça a été un référentiel de construction des identités depuis, je dirais, au moins 2 siècles, le travail. Et aujourd'hui, on met en place les conditions pour... Alors, encore une fois... Quand on n'a pas de travail, on aspire au travail. Mais on relativise la valeur travail, et je dirais, fort heureusement, et c'est un signe d'intelligence des jeunes, ils font de nécessité vertu. Je suis brestois d'origine. Les brestois aiment la pluie. Si vous rencontrez un brestois qui vous dit qu'il n'aime pas la pluie, il vous ment, il n'est pas brestois. Quand on est brestois, on aime la pluie. Parce que si on n'aime pas la pluie, quand on est brestois, on est malheureux. À Chambéry, ils aiment la montagne. Je vous garantis qu'à Chambéry, vous ne trouverez pas des gens de Chambéry qui n'aiment pas la montagne. S'ils n'aimaient pas la montagne, ils seraient malheureux. On fait de nécessité vertu. Donc, quand on est privé de travail, on a tout intérêt à secondariser le travail. Il y a une grosse, très grosse enquête, très fiable, robuste. J'ai plus 17 000 jeunes, qui a été faite par la JOC, sur qu'est-ce que réussir ta vie. Avoir un bon métier intervient en 4e rang, après avoir du temps libre, avoir des amis, vivre un grand amour, et avoir du travail. Alors, ça peut sembler aujourd'hui totalement anodin, mais je vous garantis que pour des gens de ma génération, mettre en 4e rang avoir un bon métier, après, en 1er rang, avoir du temps libre, ça laisse circonspect. Bon, mais je dirais que c'est une preuve d'intelligence, d'adaptation aux réalités. 4e idée sur ces grands phénomènes. Et ces grandes dérives, c'est quand même l'hypersélectivité du marché du travail. Ce qui fait que, vous savez, les mots sont un outil de la lutte de classe. On disait ça quand j'avais 20 ans. Je ne sais plus qui c'est que je sois, des marxistes certainement, mais bon. Les mots sont un outil de la lutte des classes. Et je me bats pour qu'on ne parle pas de jeunes en difficulté. Je me bats pour qu'on rajoute 3 lettres. M-I-S. Mise en difficulté. Parce que la première cause de la désinsertion des jeunes n'est pas à chercher dans les jeunes, elle est à chercher dans l'organisation du marché du travail, dans cette hyper-sélectivité qui produit 2 phénomènes, qui produit pour les surdiplômés ou les diplômés le déclassement, et qui produit pour ceux qui ne sont pas diplômés la désaffiliation. Et enfin, dernier grand phénomène, on a observé depuis sur ces dernières décennies une stratification forte de la société. Éric Morin en parle dans un petit ouvrage de la République des idées qui s'appelle Le ghetto français. Le ghetto français, c'est justement pas les zones urbaines sensibles, c'est le ghetto des riches qui s'enferment entre eux. On parlait de société à 2 vitesses. Et en fait, la société, elle s'organise à 4 vitesses. De plus en plus stratifié, de plus en plus imperméable. Au centre, il y a ceux que Reich non pas le psychanalyste, mais celui qui était ministre du Travail de Clinton, un type assez remarquable parce qu'il a démissionné de son poste pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. C'est pas mal quand même, hein ? Appel, comment ?
Il a préféré le temps libre.
Voilà, il a préféré le temps libre, oui. Voilà, exactement. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit du temps libre, hein, de s'occuper des mots, mais enfin bon. Au centre, il a ce qu'il appelle les manipulateurs de symboles, c'est-à-dire en fait ceux qui ont tous les capitaux pour réussir. Un capitaux, c'est-à-dire du capital économique, ils ont de l'argent, du capital social, ils ont des relations. Du capital culturel, ils ont la connaissance, du capital symbolique, ils ont le prestige, et du capital de mobilité, ils sont capables de se bouger. Les cinq capitaux nécessaires si vous voulez réussir dans la vie. Non. Manipulateur de symboles au centre. Autour, deuxième cercle concentrique, les inclus. Deux catégories, les fonctionnaires et les gens qui sont dans des grandes entreprises où il y a des protections sociales. Ces deux groupes-là sont en train de fondre à une allure remarquable, à partir de postulats. Et je vous rappelle qu'un postulat est par définition indémontrable. Premier postulat, moins d'État, mieux d'État. J'attends toujours qu'on fasse la démonstration que c'est vrai. D'avoir moins d'infirmières, vous serez mieux soignés. Ayez moins d'enseignants, vos enfants seront mieux éduqués. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quand même assez étonnant que ça passe comme ça encore. Et deuxième, et court, ceux qui travaillent dans le secteur privé, mais avec des protections sociales, ben l'obsolescence, c'est-à-dire que si vous ne bougez pas, le thème de la flexibilité, ben vous n'êtes pas bon. Donc ces deux groupes-là sont en train de rétrécir. Et ils rétrécissent extrêmement rapidement, si on fait une photographie aujourd'hui, de la structuration du marché du travail. C'est vrai que les gens qui ont des CDI sont encore majoritaires, mais c'est la queue de comète des baby-boomers qui deviennent les papy-cracheurs qui sortent du système et qui sont remplacés par le troisième cercle, ceux qui sont les précaires. Les précaires, le modèle du précaire, c'est l'intérimaire. Et là, comme dirait Pierre Bourdieu, ce sont des gens qui sont en perpétuelle tension. Parce que l'intérimaire est en conflit. Il est en conflit avec les autres intérimaires pour avoir des missions, et il est en conflit avec les ouvriers, les employés des entreprises dans lesquelles il intervient, qu'il les voit comme une menace. Et donc, là, on est dans une situation de perpétuelle tension où on va observer. Les ergonomes observent les troubles musculo-squelettiques, le stress, les choses de ce type-là. Et particularité pour les jeunes moins formés, qu'on va mettre sur des postes exposés, et c'est là où on aura le plus les accidents du travail. Et le quatrième cercle, c'est le cercle des surnuméraires, comme dit Robert Castel. C'est-à-dire des gens dont on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Alors on retrouve les vieilles recettes latines, panem et circenses. Du pain, une allocation, de quoi vivre. Augmentation du RSA de combien, là, ils ont dit ? Enfin, globalement, vous avez 20 euros par jour. Hein. Bon, même pas. 20 euros pour tout. Hein. Vous débrouillez avec ça. Quoi. Et puis, des jeux. Quoi. Quelle est la société qui fonctionne le mieux aujourd'hui en France ? C'est la Française des Jeux. C'est la Française des Jeux. Où on fait gratter les gens à des jeux complètement débilitants. Imbéciles. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même gros lot, morpion, tac au tac. C'est quand même une conception particulière de la sémantique. Pour, bon, bref, quatrième cercle. Et cette stratification, manipulateur de symboles, inclus, précaire et surnuméraire, eh bien, il y a un grand mouvement, une centrifugeuse. Le mouvement, il va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, ce sont les cinq phénomènes qui affectent l'ensemble de la société. Et puis, on a des dérives propre aujourd'hui au système de l'insertion et en particulier aux missions locales. D'abord, il faut savoir que c'est l'État qui est le premier financeur des missions locales. Globalement, 42-43% du financement structurel des missions locales, c'est l'État. Et on est parti d'une logique de projet vers une logique de programme. Des programmes hétéronomes, décidés en haut, appliqué en bas, contre une logique de projet. À tel point qu'aujourd'hui, les missions locales me semblent porter la parole des grands auprès des petits plutôt que de porter la parole des petits auprès des grands. Ce qui pourtant était leur philosophie première, et je peux vous garantir, celle de Bertrand Schwarz. Bertrand Schwarz m'a fait l'honneur et le plaisir de préfacer mon premier ouvrage. Deuxième phénomène, face à la non-résolution du chômage. Je vous rappelle qu'au départ, on était persuadé que ça allait se régler en 18 mois, 24 mois. D'ailleurs, quand les missions locales ont été créées, on n'a pas embauché des gens. C'était sur une logique de mise à disposition. C'est-à-dire, toi tu travailles dans un CCAS, toi tu travailles à la Fédération des œuvres laïques, toi tu travailles, etc. Vous mettez ensemble, vous accueillez les jeunes, vous répondez à leurs besoins professionnels, mais également sociaux. Et puis dans 2 ans, le problème des jeunes sera réglé. Donc vous retournez chez vous. Vous aurez en plus appris à travailler ensemble. On a vu ce que ça a donné. Face à cette non-résolution du chômage, on a installé les missions locales comme étant gestionnaires de l'inemployabilité. Avec tout un discours médical, c'est là où il y a une force de l'idéologie libérale et néolibérale, c'est-à-dire distiller des mots qui sont repris sans trop réfléchir. Alors, discours médical, on fait des diagnostics, on fait des prescriptions en mission locale, comme si, encore une fois, le chômage était un cancer qu'on allait extirper. Dans les têtes, ça a provoqué, au départ, la bonne idée, une pédagogie du contrat avec les jeunes. Qui dit pédagogie du contrat dit les jeunes sont responsables. Et la dérive, c'est que non seulement ils sont responsables, mais ils sont responsables de leur situation de chômage, et donc coupables. Et donc, une psychologisation d'un phénomène sociologique et économique. Ce que certains chercheurs appellent la norme d'internalité, c'est-à-dire le fait de renvoyer aux personnes la responsabilité de leur situation. Et enfin, je dirais, le dernier point, c'est l'inspiration du management public par les méthodes des entreprises. Il ne suffit pas d'être efficace, maintenant il faut être performant. Et donc, une logique de mise en concurrence, et donc des subventions en fonction de vos résultats. Ce qui est tout à fait une absurdité. Si vous êtes parent, si vous avez un enfant qui éprouve plus de difficultés que l'autre à travailler à l'école, est-ce que votre logique, ça va être de lui donner moins de moyens ? Ben, la logique de la performance, c'est ça. C'est-à-dire, telle mission locale n'a pas de bons résultats, eh bien, on va la punir. Elle aura moins de sous pour l'année suivante. On est quand même dans une logique et puis une prédominance, un envahissement d'une évaluation mal conçue. Juste, très rapidement, une petite histoire. J'intervenais dans une chambre régionale d'économie sociale, dans une série de séminaires que je faisais sur l'évaluation du social. J'avais en face de moi une dame d'une cinquantaine d'années qui était directrice d'un service de soins palliatifs. Et cette dame me demande comment je peux faire la démonstration pour mes financeurs de l'utilité de mon service. Et elle est partie dans des grands discours, critères, indicateurs, démonstration des valeurs ajoutées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en parlant, je me disais, mais attends, là. Dans quelle société vivons-nous pour qu'on soit contraint de faire la démonstration qu'aider des gens à ne pas souffrir quand ils vont mourir est utile socialement ? Donc là, il y a quelque chose qui on marche sur la tête. Alors, cette logique d'évaluation complètement déraisonnable, avec des indicateurs complètement absurdes. Complètement absurdes. On a aujourd'hui un indicateur pour juger le travail des intermédiaires des politiques de l'emploi, qui est l'accès rapide à l'emploi durable. Alors qu'aujourd'hui, la norme, c'est l'accès lent à l'emploi non durable. Eh bien, vous êtes jugé sur l'accès rapide à l'emploi durable. Donc, on parle toujours de formes particulières d'emploi. Les formes particulières d'emploi, FPE, on aime beaucoup les acronymes dans ce milieu-là, quoi. C'est L'intérim, les contrats à durée déterminée, les temps partiels. Aujourd'hui, presque 9 embauches sur 10 sont des contrats à durée déterminée. Forme particulière d'emploi ou est-ce standard là-dessus quoi. Donc vous voyez, des dérives importantes. Je conclue sur des propositions d'action. J'en ai en fait 4. La première proposition, c'est la promotion de l'éducation populaire en ciblant les jeunes qui sont dans les dispositifs de type emploi d'avenir, la garantie jeune, qui est une expérimentation actuellement sur 10 départements et qui va être généralisée normalement à partir de la fin de l'année prochaine. Ce sont des jeunes qui sont rarement organisés, qui sont dispersés. Qui plus est, cette dispersion est renforcée par la logique d'individualisation de l'offre de services. Mais je crois qu'il faut être capable d'aller auprès de ces jeunes pour leur permettre de s'organiser entre eux et d'établir, en tant qu'usager, une dialectique et aussi des rapports de force, parce que la vie n'est pas une grande bergerie marcusienne, avec les institutions. Parce qu'aujourd'hui, ces usagers-là ne sont pas dans une dialectique avec. Il y a un exemple aujourd'hui qui est en train de se passer. Il se trouve que je vais assez souvent sur les DOM, à La Réunion et aux Antilles, et à La Réunion, aujourd'hui, on a un jeune qui était en emploi d'avenir, à la mairie du Tampon, quatrième ville de La Réunion. Il avait embauché 300 emplois d'avenir, et le maire du Tampon, qui a un curriculum vitae de procès, etc., incroyable, hein, bon, a décidé de, parce que c'était, ils avaient été embauchés par la précédente municipalité, de supprimer tous les contrats d'avenir, au bout d'un an. Et donc il y a un jeune qui a pris le leadership là-dedans et qui est en train de se battre. Et bien je pense que ces jeunes-là, il faut les cibler, il faut faire avec eux le travail d'éducation populaire, et puis leur permettre de s'organiser dans le cadre des dispositifs. Deuxième idée, il faut systématiser la participation des jeunes en termes de conseils consultatifs jeunes, de conseils d'administration junior, etc., dans les structures. Aujourd'hui, à vue de nez, comme ça, hein, au doigt mouillé, je dirais que on a moins de 20% des missions locales qui disposent de conseils consultatifs jeunes. Ce qui est un comble. Ce qui est un comble pour des structures qui ont été fondées sur l'idée de l'éducation populaire, alors que parallèlement, la loi de janvier 2002 impose au secteur médico-social, par exemple, la participation des usagers. Que l'éducation nationale, qu'on a accusé d'être un mammouth à décresser, etc., etc., si vous êtes parent d'élève, vous savez très bien que les parents d'élèves sont au conseil d'administration des établissements scolaires et qu'il y a des délégués de classe. L'ANPE, avant Pôle emploi, à la suite des mouvements de comités de chômeurs, les chômeurs sont intervenus dans une dialectique. Et aujourd'hui, dans les missions locales, je vous dis moins de 20%, je pense que je suis très optimiste, des missions locales ont des conseils consultatifs jeunes. Troisième proposition, mais pourquoi les conseils d'administration jeunes sont-ils, les conseils d'administration des missions locales, on n'y trouve pas les militants communistes. On y trouve très peu de militants communistes. Les conseils d'administration, on va trouver des exceptions, bien évidemment, mais les conseils d'administration sont désertés. Aujourd'hui, les conseils d'administration, on y trouve les institutionnels, les politiques qui traînent la patte. Normalement, c'est le maire. Hein, et on s'aperçoit que l'enjeu est considéré par de plus en plus de collectivités comme étant mineur. Et on envoie le troisième, le quatrième, le cinquième couteau, etc. Ceci dans un paysage extrêmement hétérogène. Hein. Le financement des missions locales par les collectivités territoriales, par les communes et intercommunalités, varie de 0,10 euros par habitant et par an à 4,50 euros par habitant et par an. Vous imaginez, alors on est quand même sur une mission de service public, reconnue dans la loi. Quand on a une échelle qui va de 0,10 à 4,50 euros, est-ce qu'on est capable d'offrir la même chose? Donc la mission de service public est mise en cause. Juste une toute petite histoire, j'ai le temps. Petite histoire. J'étais en charge d'organiser une mission locale départementale. Il y avait donc une mission locale, et puis ce qu'on appelait les PIO, hein, les petites missions locales. Je vais rentrer dans les détails. Quand on organise, on fait la fusion de trois structures, ben, on voit les maires et on leur dit, bon ben voilà, il y a un tarif. Alors la mission locale, la mairie donnait 0,60 par habitant et par an. Je vais voir le président, par ailleurs, sénateur, président de la PIO, et lui donnait 0,10. Alors, je lui dis, au bout d'un certain temps, après les civilités, l'usage, je lui dis, on va fusionner, il faut que vous donniez 0,60. C'est-à-dire, vous n'allez pas, vous, dans la même association, donner 0,10 alors que l'autre commune donne 0,60. Sinon, votre collègue, il va dire, bah, pourquoi je donne 0,60 puisque l'autre, il donne 0,10. Alors, bon, là, j'ai eu quasiment un infarctus en direct. Alors, la main sur le cœur ou sur le portefeuille. Je peux pas, mes administrés, on est étranglés, il n'y a plus un sou. On se donne rendez-vous pour 15 jours après. 15 jours après, on se revoit. Et là, il avait une particularité, cet homme. Il disait, j'ai une équipe dévouée. Ah, il aimait bien. J'ai une équipe dévouée. Bon. Les palabres, un petit peu comme en Nouvelle-Calédonie, sous les palétuviers. 10 minutes sur son équipe dévouée, et puis on arrive à l'os. Je lui dis, vous avez avancé sur l'histoire du financement, parce qu'on ne va pas rester à 0,10, là, c'est le denier du culte, là, votre histoire. Et il dit, non, je ne peux pas, j'ai cherché partout, on n'a plus d'argent. On se donne rendez-vous pour 15 jours après. Et là, je commence à me dire, c'est bien cet homme, mais je ne vais pas le voir tous les 15 jours. Donc j'étais voir le budget municipal. Subvention à l'SPA plus importante qu'à sa PIO. Et donc la troisième fois, je le vois. Il me fait le coup de son équipe dévouée. Et puis, je lui dis, c'était avant les élections municipales, pas celle-ci, les autres avant. Et je lui dis, oh, j'ai appris que, nouvelle pour les élections, que votre subvention pour les animaux abandonnés était plus importante que pour les jeunes de la commune. Si les électeurs apprenaient ça, ça ferait mauvais effet. Là, j'ai senti dans ses yeux, ce salopard va me balancer. J'ai senti ça dans ses yeux. Et 8 jours après, j'avais un courrier, il acceptait de passer à 0,60. Donc, on donne 0,60. Vous allez prendre un café dans le TGV, c'est 2,50€. 0,60 par habitant et par an. Regardez le prix d'un rond-point sur lequel on met des fleurs. Moi, il y a des villes, des communes, où je les traverse, j'ai l'impression de sortir du Grand 8 de la Foire du Trône. Je ne sais pas pourquoi, on fait des trucs. Pas qu'en Bretagne. Et donc, je me dis, mais et la jeunesse. Et j'entends tout un discours sur la jeunesse, impératif national, etc. Ça fait 30 ans que ce discours-là, on l'entend. Et ça me rappelle un discours, le discours type 3ème République, avec des rouflaquettes, vous savez, sous les préaux, et puis grand discours incantatoire, et qui ne repose plus sur rien. Donc je pense qu'il faut investir les conseils d'administration des missions locales pour en refaire des outils du développement local et de la coordination d'une politique jeunesse. Il faut extraire, désincarcérer les missions locales de leur logique de programme et revenir à cette idée de l'éducation populaire et d'une politique jeunesse sur le principe de l'approche globale, du projet ascendant et autonome. Et dernier point, qui va sans doute être un sujet de débat, je trouve qu'on est insuffisamment présent sur le thème de la responsabilité sociale des entreprises. Le dernier rapport du Conseil économique et social environnemental, c'est sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On a 19 groupes au Conseil économique et social. Tous ont voté l'avis sur le développement de la RSE. Le seul groupe qui ne l'a pas voté, c'est FO. Le groupe des comment dire, de la mutualité, le groupe des mouvements de jeunesse, le groupe de la CGT. La CGT écrit, la CGT est convaincue que gagner la transition économique, sociale et environnementale nécessite de sortir d'une conception en silo pour se diriger vers un modèle de développement inclusif. Et vote. Je constate qu'on vote, qu'on dit ben oui, les RSE, il ne faut pas être dupe. Pour des entreprises, la responsabilité sociale, ça va être un coup de peinture verte ou un coup de peinture rose, etc. Un greenwashing, social washing, etc. Mais on s'en fout. On s'en fout. On peut aller là et on peut gagner des choses pour les jeunes. Et par exemple, contraindre les acteurs économiques qui ne peuvent pas être absents de ce champ-là, de la mise en place de moi ce que j'appelle des pactes territoriaux pour l'insertion et l'emploi des jeunes. On ne peut pas laisser cette affaire-là à la seule responsabilité aujourd'hui de l'État. Il faut que les gens de bonne volonté deviennent acteurs, passage en situation d'une logique de spectateur à une logique d'acteur, se mobilisent et puis se fédèrent pour aller dans ce sens-là. C'est un petit peu mes propositions. Voilà.
Merci.
J'ai débordé.
Voilà, du coup, on a eu beaucoup de choses sur. Là, on a du grain à moudre. Donc maintenant, on a une petite demi-heure, un peu plus. Donc. Ah oui, déjà, on a 20 minutes. On a commencé un peu plus tard. Tous les ateliers vont se décaler, on connaît très bien le problème. Donc on va prendre 20 minutes. Donc allez-y, si jamais vous avez des questions. Oui. Juste si on pouvait éventuellement, je ne sais pas, comme vous voulez, mais peut-être se présenter en deux mots.
Oui, alors, comme ça, c'est Bertrand Venturet du Rhône. Moi, je travaille dans un organisme de formation qui fait de l'insertion sociale et professionnelle, et on y tient, on se présente, on parle bien de ça. Juste un petit témoignage et puis quelques petites précisions. D'abord, je me retrouve complètement dans tout ce que tu viens de développer, c'est effectivement la situation à laquelle on est confronté. Alors, nous, en plus, on est bien conscients que depuis quelques années, notre boulot consiste quand même principalement, soit avec les jeunes ou les moins jeunes, consiste principalement à faire baisser les statistiques. Puisqu'effectivement, quelqu'un qui rentre en formation chez nous change de catégorie. Et donc, forcément, ça, c'est toujours un plus pour les statistiques. Ah, bah, regardez. Et puis, on sait très bien que dès qu'il y a un problème avec les jeunes, notamment des émeutes en banlieue, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un plan pour les jeunes, on va proposer des formations. Bon, ben, ouais. Proposons des formations, très bien. Qu'est-ce qu'il faut après? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est aussi notre grosse frustration, c'est qu'on travaille avec des gens dont on sait très bien que, au bout du compte, il y en aura peut-être 10% qui vont déboucher sur un emploi qui sera, comme tu l'as dit, en général, un CDD. Voilà. Ou un remplacement, ou de l'intérim, etc. Donc c'est quand même très frustrant, mais en même temps, on a quand même la fibre parce qu'on ne travaille pas que sur l'insertion professionnelle. On sait qu'il y a aussi beaucoup de choses à voir avec les personnes, d'ailleurs, je vais en parler après. Donc on a quand même, on garde quand même la foi parce qu'on sait que votre boulot ne se limite pas à trouver un boulot à des personnes. Heureusement d'ailleurs qu'on ne donne pas ça comme objectif parce que. Je sais qu'il y a eu une époque où on demandait 50% d'insertion professionnelle issue des formations. Ça, c'est très simple, tu les envoies tous chez McDo. Ils ont effectivement un contrat. De merde, mais ils ont un contrat. Après, par rapport aux missions locales, alors, c'est vrai que les missions locales ont beaucoup de difficultés à travailler. Il faut savoir quand même qu'un conseiller mission locale, il a entre 100 et 300 jeunes à suivre. Pour faire un vrai travail d'orientation avec ces personnes-là, c'est très compliqué. Donc il y en a aussi certains, on leur met la pression, on sait qu'on a des jeunes qui arrivent dans nos formations, ils ont eu un rendez-vous avec leur conseiller. Voilà. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah tiens, il y a une formation qui démarre, t'as qu'à y aller. Pof. On n'en veut pas non plus aux conseillers, on sait bien qu'ils ont la pression. Ils aimeraient pouvoir travailler dans d'autres conditions. Maintenant, bah, il faut qu'ils, eux aussi, il faut qu'ils contribuent à faire baisser les statistiques, et c'est très grave. Mais En même temps, on travaille beaucoup avec des missions locales qui justement sont sur d'autres champs que le professionnel. Donc on arrive à développer des actions qui sont plus du domaine de l'éducation populaire. Ça peut être sur la santé, ça peut être sur la culture, ça peut être sur l'environnement. Donc on arrive à développer des choses et il y a des missions locales qui sont vraiment dans ce champ-là. Donc c'est vraiment intéressant, il faut qu'on continue à développer ça. Surtout qu'on sait bien qu'avec les baisses de financement public, notamment dans les conseils régionaux, on le subit, nous, le financement de la région sur les actions de formation, ça devient de plus en plus compliqué, donc on va aller de plus en plus vers les collectivités locales, collectivités territoriales, pour mettre en place des actions intercommunales qui seront à la fois sur le champ de la formation de l'emploi et sur d'autres champs, des champs sociaux aussi. Et puis, en ce qui concerne les jeunes, alors nous, on a constaté un truc qui nous inquiète énormément. Depuis quelques années, on est confronté à la deuxième génération des minima sociaux. C'est-à-dire qu'on a les enfants de ceux qui ont vécu la crise dans les années 80-90, qui ne connaissent que le RMI, le RSA, tous les minima sociaux, et qui, du coup, se projettent uniquement là-dedans. Comme on disait avant, les enfants d'ouvriers vont devenir ouvriers. Les jeunes des minima sociaux se projettent comme futurs minima sociaux. Et ce n'est pas par confort, ce n'est pas par fainéantisme, etc. C'est parce que culturellement, ils ne connaissent que ça. Et c'est très grave. Et quand on discute avec eux de projets professionnels, de champs professionnels, il y a 4 domaines qu'ils connaissent. Ils sont capables d'en citer 4. La vente, le travail dans la petite enfance, le bâtiment et quatrième, l'hôtellerie, restauration. La restauration. Voilà. Une fois qu'ils ont cité ces 4 métiers, tous les autres, c'est complètement inconnu. Donc on travaille avec eux à la fois sur l'ouverture culturelle sur les métiers, sur une insertion professionnelle, mais il y a aussi tous les autres aspects culturels, parce qu'il y a une véritable paupérisation culturelle aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai manque de connaissances. Ils sont vraiment au niveau zéro. On a des jeunes qui ont 16, 18 ans, 20 ans, qui ont un niveau à peine CM2. Et je ne parle pas simplement en termes de savoir de base, mais même en niveau de termes de connaissances générales. C'est vraiment très grave, donc on se bat contre ça aussi. C'est un gros travail qui est à faire, et surtout un gros travail à faire sur la valorisation de certains métiers manuels. Parce que les métiers manuels, c'est quand même devenu, dans les années 80-90, c'était synonyme de l'échec scolaire. T'es nul à l'école, tu vas faire un CAP de maçonnerie et tu nous fous la paix. Voilà. C'est quand même ça aussi. Donc il y a aussi tout ce travail de revalorisation qu'on est en train de faire, notamment avec des artisans, avec certains métiers, parce qu'il y a vraiment des débouchés. D'abord, il y a des débouchés dans certains métiers manuels. Il y a possibilité de faire des choses très intéressantes, très valorisantes. Et en plus, bah, c'est quand même... faut qu'on arrête de stigmatiser des métiers, faut qu'on arrête de stigmatiser des jeunes, faut qu'on arrive à faire un vrai travail d'ensemble d'éducation populaire, d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. Il y a des acteurs qui sont volontaires, on arrive à travailler. Après, bah, évidemment, comme dans tout, ce qui manque, c'est le nerf de la guerre. Et ça, malheureusement, on sait que ça ne va pas s'arranger. Voilà. C'était des précisions que je voulais amener.
Oui.
Je suis Delphine, je viens de Grigny, de l'Essonne, d'un quartier assez sensible que beaucoup de gens connaissent. Je suis d'accord avec vous sur le point, sur le fait que c'est par rapport au niveau social de vie que beaucoup de jeunes s'orientent. Mais en même temps aussi, lorsqu'on se fixe, je peux dire, on se dit qu'on n'a pas besoin de se fixer certains objectifs. Pourquoi ? Parce que si on se fixe des objectifs de faire des longues études, de vouloir aller plus loin que nos parents, le problème c'est qu'on n'a pas ce soutien nécessaire derrière. Les parents ne peuvent pas nous aider sur certains points parce que eux, soit il y en a qui n'ont jamais été à l'école, qui ne peuvent pas savoir sur quoi ils peuvent nous orienter. Et de l'autre côté aussi, on a le fait que au niveau des missions locales ou de Pôle emploi, on nous envoie systématiquement sur des contrats cuits, CUI. Et les contrats CUI, c'est quoi? C'est pour qu'on se réveille à voir, faire le même boulot que d'autres personnes donc au sein d'une entreprise et être payé à des fois à 400 ou 500 euros net au moins. Sachant que si nous sommes au RSA ou indemnisés par le chômage, on gagnera plus. D'un côté, ça ne donne pas la motivation nécessaire. Et aussi, nous sommes systématiquement stigmatisés. Vient de Grigny, on n'embauche pas. Ça ne va pas être sérieux, ça ne va pas être ça. Et sachant aussi que notre mission locale, On ne peut même pas dire qu'ils sont surchargés, ils sont plus que surchargés. Parce que la plupart des gens à 16 ans ne vont plus suivre d'études ni rien. On nous envoie dans les centres de formation où on ne se sent pas comprise. Et généralement, comme vous le dites, c'est les premières formations, aller sur ça, sans même chercher à savoir ce qu'on veut réellement, quels sont les objectifs. Donc s'il y a vraiment un travail de fond qui peut être fait sur ça, à mon avis, ça sera la meilleure solution. Et surtout, trouver un moyen de faire en sorte que les parents qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école ou autre puissent avoir un soutien nécessaire et accompagner leurs enfants. Voilà, c'est tout.
Merci. Nardine ?
Moi, je suis une famille, mais je suis surtout un militant à la JC. Vous, par rapport à ce que vous disiez, mais la camarade de Grigny a le dit, mais moi je pense que le point fondamental, il est aussi dans, pour reprendre des termes que les libéraux utilisent souvent, dans l'illisibilité du système et qui est organisé aussi. Parce que, effectivement, on avait étudié, nous, en 2011, un rapport sur l'emploi des jeunes et qui montrait qu'il y avait plus de 50 contrats spécifiques pour les jeunes, d'insertion, etc. Et c'est complètement illisible, c'est complètement organisé pour faire en sorte que des jeunes sortent d'eux-mêmes des circuits et créer des strates effectivement encore plus précaires dans le salariat. Et du coup, ce qui est gênant, c'est que le gouvernement, enfin en 2012, il y avait une bataille assez forte avec énormément d'organisations de jeunesse, mais au-delà aussi, qui a débouché sur un appel qui était refonder les politiques de jeunesse, un big bang des politiques de jeunesse. Et l'idée, c'était de dire, faut en finir avec tous ces dispositifs particuliers, remettre l'idée de droit commun pour les jeunes. Et finalement revenir à tendre vers la norme qui est effectivement le CDI en lui redonnant du contenu, parce qu'effectivement on peut aussi être en CDI et précaire, hein, comme vous disiez, Mac 2, etc. Et du coup là vous avez évoqué la garantie jeune, mais c'est incroyable que des gens osent dire que une garantie jeunesse ou une espèce de RSA jeune, c'est un dispositif d'insertion qui, bon, depuis 30 ans on fait ça, ça marche pas. Et en plus, cavalise le fait qu'on peut s'insérer avec un revenu qui est moins le seuil de pauvreté officiel. En plus, qui n'est même pas celui qui est vécu officiel. Et donc, on est en train de aussi de revoir, c'est même plus la déminima sociaux, c'est la survie presque. Il y a un vrai combat idéologique aussi sur l'idée que... des dispositifs, j'aime pas le terme insertion, mais en tout cas des dispositifs d'entrée dans le monde du travail, d'entrée dans la vie pour créer effectivement, pour pouvoir se projeter, faut qu'ils aient une base minimale ambitieuse et qui permette de subvenir à ses besoins, quoi. Parce qu'effectivement là, on est dans une organisation du monde du travail qui effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, exclut de fait de plus en plus une certaine catégorie. Et j'ai l'impression qu'on tend vers un modèle comme en Angleterre où en fait on crée des espèces d'handicapés sociaux, on leur donne un revenu minimal tous les mois, mais ils sont sortis des chiffres du chômage et normalement ils survivent avec tout ça. Et en plus on détricote la sécu, on n'en fait pas un discours de chacun ses moyens, à chacun ses moyens selon ses besoins, mais de la charité. Je crois qu'il y a besoin aussi de redonner du sens là-dessus, sur le fait de pas lâcher sur l'idée de droit commun, parce que c'est ça qu'ils sont avant tout, à mon avis, de déconstruire. Et l'autre aspect sur lequel on se fait souvent attaquer, et je crois que là, cette semaine, elle a montré énormément ça, sur la question de l'entreprise, quoi. Quand effectivement on nous dit la découverte de l'entreprise, etc. On nous sort des chiffres, il y a 800 000 emplois non pourvus, etc. Nanana. Il y a des emplois dévalorisés, mais s'ils sont dévalorisés, c'est parce qu'ils sont sous-payés. Souvent ils sont féminisés, souvent ça va ensemble. Et il faut qu'on gagne aussi le fait que la découverte de l'entreprise que des espaces, effectivement, comme des conseils d'administration et autres, à mon avis, ce soit aussi, pour aller vite, quand on dit le lien à l'entreprise, c'est souvent le lien à l'employeur et pas le lien au salarié, à leur représentant. Et je crois qu'on a besoin aussi de gagner le fait que sur des dispositifs de découverte d'entreprise, on gagne du lien aux salariés, à ceux qui font vivre, à ceux qui créent les richesses. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on se fait voler le débat sur l'entreprise, la finalité du travail? Et on ne peut pas séparer les deux parce que du coup, on ne donne pas du coup l'idée effectivement de l'utilité du travail pour soi et pour les autres. Quoi. Et à mon avis, enfin moi c'est, je pense aussi qu'il faut la bataille des mots à résulte aussi d'une bataille matérielle, mais sur la question de l'insertion, moi ce qui me gêne toujours, c'est l'idée que finalement, il y a des gens qui sont intégrés à l'intérieur de la société, et il y a ceux en dehors qui essayent de rentrer, mais bon, s'ils ne veulent pas, c'est un peu de leur faute, hein, finalement. Enfin, il faut aussi peut-être changer les mots, peut-être, aussi pour pas subir aussi dans la bataille du...
Madame.
Oui, Isabelle Voisin de l'Essonne. Je voulais, à la lumière de l'exposé, qui était très intéressant, exprimer mon bilan. En effet, je suis plus depuis 2014, mais j'ai été élue communiste et au conseil d'administration de mission locale. Donc, ça m'a investi assez mieux, un petit peu par une bonne expérience. Cette mission locale du Val-d'Herne-Val-de-Seine est donc dirigée par l'adjointe d'un député maire UMP qui est nationalement connu, qui est Jean Jetron. Donc il donne à son adjointe, c'est un petit joujou caritatif en espèce de la mission locale. Et elle était, la dérive qu'elle risque toujours de connaître sous cette impulsion politique, c'est d'être simplement orientée placement, emploi, préparation à l'emploi, mettre un costume, cravate, dire bonjour, etc. Donc le bilan sur les 8 années où j'ai fait partie, les 10 années où j'ai fait partie du CIA, c'est de revenir davantage à la prise globale, la création d'un poste de psychologue, le fait de consacrer un poste à l'accompagnement, à l'appui aux démarches administratives des jeunes, et la construction dans le territoire de la mission locale d'une résidence. Logement pour jeunes qui n'existait, il n'en existait aucune auparavant. Tout ça ayant été en partie impulsé au sein de la mission locale. Sur les moyens, alors effectivement, la dotation financière, la défense de cette dotation, et surtout intervenir quasi quotidiennement à certains moments pour que les postes de conseillers soient pourvus. En effet, la structure de cette mission locale faisait que les postes étaient recruté par la communauté d'agglomération et mis à disposition de la mission locale. Ce qui faisait que s'il n'y avait pas l'intervention d'élus, des carences de 3, 4, 5 mois sans conseiller sur le terrain. Par contre, là où j'ai un peu une lacune et je me suis rendu compte en vous écoutant, c'est sur la participation des jeunes eux-mêmes à cette institution. Donc, je pense que j'aurais dû et pu aller plus loin en essayant d'impulser un conseil d'administration jeune. Des usagers de la mission locale. Voilà, et pour terminer, je fais un petit peu de publicité pour, s'il y a des élus dans la salle, pour la journée de formation du 21 novembre du CIDEF à Montreuil, qui est destinée aux administrateurs de mission locale sur toutes ces questions.
Juste, il y a trois inscrits, donc je pense que vu l'heure, les prochains débats. D'accord, deux, alors les prochains débats commencent. Donc
moi j'étais cuisinier dans une entreprise d'insertion pour dire qu'il y a d'autres outils de l'insertion que les missions locales, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, etc. Moi ce que j'ai vu dans ces dans ces outils là, c'est surtout voué à occuper justement ce que tu appelais les surnuméraires, des personnes qui sont sans emploi, chômage longue durée, des femmes esselées avec enfants, j'ai eu assez de peu de jeunes là-dedans finalement, quoi. Et des gens qui, de toute façon, vu le système dans lequel ils étaient pris, psychologique, victime de burn-out, femme avec enfant, toute seule. C'était très compliqué ensuite de déboucher sur un travail. Quoi. Mmh. Donc, j'ai souvent l'impression que ces outils-là sont un pansement social et en plus qu'ils sont victimes de ce dont tu parlais, la politique du chiffre. Parce qu'aujourd'hui, un chantier d'insertion, on lui demande des résultats derrière et ça oriente quand même le public cible, c'est-à-dire qu'on va prendre. On va embaucher des gens qui sont le plus près de l'emploi et on va éviter les gens qui sont loin de l'emploi parce que ça c'est moins efficace.
Oui. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
Merci. Et après on va conclure parce que les suivants vont nous bousculer. Vas-y.
On va à l'insertion de tout simple. Ça fait penser aussi à l'insertion de tout simple des doctorants. C'est un peu. Le leitmotiv en ce moment du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'on appelle la logique adéquationniste au niveau de l'enseignement supérieur. Il se trouve qu'aujourd'hui, les universités pensent en termes de carte de formation plutôt plus régionale maintenant que nationale, avec des diplômes qui apparaissent, des diplômes qui sont très spécialisés, justement, comme le GEOAN. Notamment dans mon université, qui est l'université Paris-Créteil, ils ont inventé un diplôme universitaire Capgemini pour travailler uniquement dans cette entreprise. Et notamment, voilà, ces diplômes universitaires qui ne sont pas du tout cadrés, donc justement, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Donc, il y a ça qui se développe, et le problème, c'est qu'en effet, il y a des jeunes qui rentrent dans ces entreprises, mais une fois que. Ils en sortent, ils n'ont plus la formation qui permet de s'insérer globalement dans un marché du travail. Et donc, là, c'est sur le déclinisme. Et la dernière chose, c'est une proposition. En termes d'insertion, il y a le travail, bien sûr, mais il y a aussi le logement, la santé, toutes les choses peuvent être analogues. Et il me semble aussi que les jeunes ont tout intérêt à s'investir dans toutes les formes, bien sûr il y a les missions locales, mais toutes les formes d'institutions qui leur permettent d'exercer une sorte de démocratie participative, d'être dans la gouvernance du logement, de la santé, etc., afin de permettre d'avoir les meilleures conditions de vie, puisque en effet, pour accéder à un emploi, c'est aussi bien aussi d'avoir un logement, d'être indépendant.
Pour 3 minutes. Écoute, je ne vais pas répondre à ta question pour une raison très simple. C'est que d'abord, tu as fourni les réponses. Et que d'autre part, ne serait-ce que le libellé, logique adéquationniste. Une logique adéquationniste, ça voudrait dire que A plus B donne C. Or, on a affaire à l'humain. A sur B donne C prime. Et le prime, c'est le signe de la liberté de l'individu. En mécanique, A sur B peut donner C. Et ça, c'est une logique de complication et d'ingénieur. En complexité, les relations humaines sont dans la complexité. Je travaille avec Edgar Morin. A sur B donne C prime. Voilà. Mais on est confronté à une pensée disjonctive en face de nous. Une pensée qui sépare et qui résonne de façon causale. Et adéquationniste. Il n'y a pas plus à dire, sinon que c'est effectivement désespérant, et je te garantis qu'il m'arrive d'être désespéré, et que si je m'en sors, c'est un petit peu grâce à Gramsci en disant le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Mais être confronté à ça, et au bout de 30 ans, 40 ans, entendre toujours ça, voire une accentuation de ce phénomène-là, effectivement, il y a quelque chose de terrible là-dedans. Je voudrais juste un point, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est dans le rapport de Bertrand Schwartz. Une solution sociétale, c'est quand même le partage du travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe ? On observe l'offensive, une offensive absolument ahurissante, une régression sociale et politique terrible. Ce qu'on a entendu avec le discours de Valls est terrible, c'est-à-dire c'est la remise en cause des 35 heures, clairement. Qui est la remise en cause du code du travail, etc. Alors que de toute évidence, le partage du travail serait la solution vers laquelle il faudrait aller. Alors, je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est un gros mot maintenant de dire partage du travail. C'est considéré comme un gros mot. Donc, pour reprendre, le problème de la lisibilité, oui, c'est. Mais je voudrais rappeler que s'il y a beaucoup de structures d'insertion, et bien évidemment l'insertion par l'activité économique, etc., il y a un article 13 de la loi de cohésion sociale. Il faut être républicain. C'est le législateur, c'est la République. Article 13 de la loi de cohésion sociale a créé un droit à l'accompagnement pour tout jeune en risque d'exclusion professionnelle. Et explicitement, la loi dit que la mise en œuvre de ce droit est confiée aux missions locales. La mise en œuvre de ce droit n'est pas confiée aux opérateurs privés de placement, n'est pas confiée, etc., etc. Et ce sont aux missions locales d'organiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elles fassent tout, mais c'est à elles de garantir la mise en œuvre de ce droit. Donc moi, j'invite les municipalités à être rigoureuses sur le respect de ce droit républicain, à ne pas recréer des sortes de services parallèles ou de confondre les logiques de formation qui sont soumises à des circulaires européennes qui les mettent en concurrence et l'accompagnement qui n'est pas de la formation. Et quand je vois le Conseil régional Midi-Pyrénées qui lance des nouveaux dispositifs d'accompagnement sur la base de marché. De marché ouvert, confondant la formation et l'accompagnement. J'ai dit à Monique Iborra, députée, rapporteure du dernier rapport sur Pôle emploi, je lui ai dit, vous êtes hors la loi, madame. Pour dire ça, un député, quand même. Parce que, tout simplement, elle confie l'accompagnement à des opérateurs privés de placement, mettant les logiques en concurrence. Donc là, il faut ça, pied à pied, mais rappeler aussi ce qui est élémentaire, l'article 13, droit à l'accompagnement, confie aux missions locales. Il ne s'agit pas de faire des missions locales des choses hégémoniques qui auraient tout pouvoir. Ce sont des instances de coordination. Et le mieux, pour qu'elles ne soient pas hégémoniques, c'est d'aller dedans, ce que vous avez fait, mais que il y ait des politiques, mais également des représentants de la société civile, associative, syndicale. Des fois, les syndicats y sont, mais pas souvent. Oui. Ce qui était lié également à l'accompagnement renforcé, le nombre... Il se trouve que ma fille est conseillère en mission locale. Hein. Après avoir fait un master de sociologie, mention très bien, j'étais pas dans son jury. Non, mais elle a travaillé ensuite 3 mois gratuitement. Ensuite, elle a fait chargée d'accueil pendant 2 ans avec un master de sociologie hein, pour devenir conseillère. Donc, effectivement, c'est 150 à 300 jeunes. En Martinique, j'ai trouvé une conseillère qui avait 800 dossiers. En Martinique. Et ce qu'on appelle un accompagnement renforcé en mission locale, c'est un rendez-vous par mois, de 3 quarts d'heure. Si vous êtes parent et que vos enfants rencontrent des difficultés, j'espère que dans l'accompagnement renforcé, vous lui consacrerez plus que 3 quarts d'heure chaque mois.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.